La permission de dire.
Il y a du nouveau dans la psychanalyse et les psychanalystes ne sont pas toujours au courant. Ils sont en quelque sorte en retard sur la psychanalyse. La psychanalyse a eu, il faut croire, des effets qui sont allés plus loin que ceux dont les psychanalystes ont eu conscience. Et en effet, on ne peut pas dire qu'il y a du nouveau dans l'inconscient, parce que l'inconscient ne fait pas la différence entre l'ancien et le nouveau. C'est même là-dessus que repose la psychanalyse. C'est au point que Freud pouvait dire que l'inconscient ne connaissait pas le temps. Et pourtant, au début du 21e siècle où nous sommes, elle n'est plus ce qu'elle était au début du 20e, quand elle est née, 1900-1901, si on la date de la parution du grand ouvrage de Freud, La science des rêves. Alors, ce qui ne change pas, c'est que la psychanalyse est une expérience de vérité, au sens où on apprend ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière ses sentiments, ses idées, ses impossibilités, ses valeurs, ses idéaux, et donc on accède, ou peut-être on s'imagine accéder, on essaye d'accéder à une vie sans opium, si je puis dire, hein, de se désintoxiquer de soi-même, ou encore on a vécu sa vie sur une scène de théâtre et puis on arrive à passer dans les coulisses et ça donne une certaine liberté, enfin ça donne un peu de jeu. Et on a le sentiment que on se réveille, et d'ailleurs pas qu'une fois au cours d'une analyse. Seulement, ce qui change, c'est ceci. C'est que au début de la psychanalyse, les psychanalystes, Freud lui-même, se sont imaginés que la vérité qu'on allait découvrir allait confluer avec la norme, et en particulier avec la norme de la vie sexuelle telle qu'elle était conçue, dominante à l'époque. Que le sujet éprouvait des incapacités dans sa vie sexuelle, des fixations, qu'il y avait certaines conditions qui s'imposaient à lui pour aimer, pour jouir, qu'il devait aussi constater des déviations chez lui par rapport à la norme, et que la psychanalyse, comme expérience de vérité, allait permettre de remettre d'aplomb la vie sexuelle du sujet. Alors, expérience faite, une expérience maintenant qui est une certaine durée, on s'est aperçu qu'en effet, dans la règle, la psychanalyse a bien cet effet, mais que l'aplomb dont il s'agit est particulier à chacun. C'est-à-dire que la vérité de votre jouissance, eh bien, n'est pas du tout nécessairement accordée à la norme. Et même plutôt que dans la règle, elle la met en question. Et, il faut dire, les psychanalystes en ont été les premiers surpris. Ils ne se sont pas du tout accordés d'emblée avec ce que pourtant leur expérience leur montrait. Et c'est là qu'il faut s'apercevoir d'une certaine relativité de ce qu'on appelle le symptôme. Nous disons qu'il y a symptômes quand il y a quelque chose qui cloche. Mais enfin, ça ne se repère que par rapport à l'idéal qu'on a en tête. Et si on cesse de se repérer par rapport à l'idéal, eh bien, le dysfonctionnement, c'est un fonctionnement. Ça dit simplement que ça marche comme ça. Et d'autre part, l'idéal, ça change. Et la psychanalyse a fait beaucoup pour que l'idéal change précisément concernant la sexualité. Et il faut compter au nombre des effets de la psychanalyse, ce qu'on a vu naître dans les dernières années du siècle dernier, le mouvement féministe, le mouvement homosexuel, qui ont eu en retour des effets sur la psychanalyse elle-même et sur la société. Et les analystes ont dû s'apercevoir, ils ont dû conceptualiser le fait qu'il n'y a pas entre les deux sexes un rapport programmé dans la nature. Il y en a un qui est programmé dans la société, mais les deux programmes, si je puis dire, ne coïncident pas. Alors, c'est la psychanalyse qui a ouvert cette boîte de Pandore. Au début du siècle dernier encore, l'homosexualité tombait sous des interdits de divulgation. Elle restait confinée dans un certain secret, enfin, elle restait environnée de honte. Dans l'œuvre de Proust, par exemple, elle apparaît, elle est exaltée comme une conspiration, comme une secte. Et la psychanalyse a eu sur l'homosexualité cet effet qu'elle a sur toute chose, qui entre dans son expérience. C'est-à-dire un effet qui a été à la fois de confession et d'absolution. Et ce qui est très frappant, c'est qu'il y a eu une absolution indépendamment de ce que pouvaient penser les psychanalystes eux-mêmes. Dans l'expérience analytique, il y a une autorisation donnée de parler, même une invitation à parler de ce dont vous voulez, vous ne serez pas bâillonné. Là, on vous entendra, et disons que il y a de façon immanente une absolution qui s'exerce. Et elle s'exerce plus forte que les préjugés de l'analyste. Bien sûr que les analystes étaient, nous en voyons encore un certain nombre aujourd'hui, attachés au patriarcat, réactionnaires pour tout dire, machos, enfin tout ce qu'on veut. Mais ils étaient les analystes servant d'une pratique qui en elle-même comportait une absolution. Et on voit rétrospectivement que la psychanalyse était habitée d'une contradiction qui la travaillait entre sa pratique et la norme sociale. Et la clinique analytique a eu besoin, en effet, elle s'est servie pendant longtemps du concept du normal. C'est-à-dire, les analystes repéraient les phénomènes qui se produisaient dans la cure analytique à partir d'un idéal de maturation, d'intégration, de progrès normatif, de développement normal. Et c'est à partir de là qu'ils jugeaient des arrêts, des régressions, des déviations sexuelles. Mais, de plus en plus, les analystes ont été forcés de passer de ce qu'on pourrait appeler une clinique unipolaire à une clinique multipolaire. Bien sûr qu'on parle de progrès en analyse, mais ça n'est pas en invitant le sujet à se conformer à ce qui serait un progrès standard de l'espèce. C'est un progrès privatisé, si je puis dire. C'est ce qui fait que la position de l'analyste a complètement changé, on peut le dire, dans les derniers 30 ou 40 ans. On recherche le point d'accord du patient avec lui-même, avec son être véritable. Et on considère que chacun est susceptible de trouver son point d'équilibre, son accord à lui, sans espérer qu'il se conforme à des normes qui elles-mêmes, il faut l'avouer, ont considérablement évolué au point de donner le sentiment d'une certaine désorientation sociale. Alors, c'est là peut-être que je peux introduire ce mot d'esprit de Lacan, qui a pris acte, en effet, sans doute le premier, enfin, de ces transformations. Et en particulier du fait que la catégorie qu'on utilisait jadis de la perversion est devenue désuète en psychanalyse. Le mot d'esprit de Lacan, ça a consisté à écrire, à dire la per-version. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot d'esprit? Qu'est-ce que ça fait résonner? Eh bien, c'est une dérision de ce qui avait été jusqu'alors le pivot de la psychanalyse, la référence à ce qu'on appelait l'Œdipe, révérence faite au nom du père s'imposant comme le pivot d'une famille où la mère transmet le respect qu'elle a pour sa parole aux enfants, et ce serait là la configuration exigée de toujours pour le bien-être de l'être parlant. En disant perversion, eh bien, on considère que cet Œdipe-là, c'est une forme sociale à côté des autres. L'Œdipe classique, c'est ce qu'on opposait à la perversion. Le pervers est celui qui n'aurait pas accédé à cette norme. Et après tout, du point de vue de l'analyse, l'Œdipe lui-même n'est qu'une perversion parmi d'autres. Ça n'est que le fait de s'être tourné vers le père en tant qu'il s'occupe d'une femme, et d'ailleurs souvent pour se plaindre d'en être encombré. Enfin, ça n'est pas un idéal qui, au fond, a tenu comme tel si longtemps. Et c'est, si l'on veut, la fin du privilège du nom du père. On a cru souvent que Lacan était l'apôtre du nom du père. Il en a dégagé la fonction, mais précisément pour s'avancer jusqu'au pluriel. Il y a des noms du Père, et nom du Père, tout ce qui fait fonction tel, c'est-à-dire qui met en ordre, qui vous permet de, enfin de mener votre vie de façon un peu moins égarée. Ça n'est pas le nom du Père, ça n'est pas la loi. Ça n'est qu'un instrument utile, autrement dit, au début du XXIe siècle, la psychanalyse est décidément passée de son âge dogmatique à son âge pragmatique. Un sujet homosexuel, quand il vient en analyse, ce n'est pas en général pour abandonner l'homosexualité, c'est d'abord pour la dire, et c'est parfois encore très difficile, très douloureux, quand un idéal y fait obstacle. Et l'analyste, dans ce cas, n'a pas d'autre visée que d'alléger ce sujet de l'idéal qui l'opprime, afin de lui permettre, si c'est possible, d'entretenir avec son mode de jouissance à lui un rapport plus confortable. Donc, enfin, la problématique de guérir l'homosexualité est tout à fait périmée. En cela, certainement, la psychanalyse a changé. Elle a été changée par ses propres patients. L'homosexualité, elle aussi, a changé. Il y a aujourd'hui un personnage nouveau qui n'existait pas, qui est un effet de la psychanalyse, et qui est le gay, qui est un nouveau maître mot. C'est, au fond, une nouvelle représentation sociale de l'homosexuel, des homosexuels, en tant que minorité, qui revendique des droits, les mêmes droits que les autres. Et, en effet, ainsi, la revendication d'égalité se porte au niveau de la jouissance et met en contradiction l'idéologie dominante avec ses propres principes. La jouissance est devenue aujourd'hui une question politique. Alors, il y a aussi d'autres homosexuels. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout être comme les autres. Ceux pour qui la jouissance, c'est d'être en infraction. Pour qui leur jouissance est rebelle à cette demande d'universalisation et qui trouve dans une certaine forme de clandestinité, de dissimulation, les conditions propres à leur jouissance. Et il faut respecter ça aussi, je le dis pour les gays eux-mêmes.